J'étais ravie de vous entendre toutes les deux et ravie de pouvoir m'inscrire dans le sillage de ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire, ou peut-être à rebours de ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire ravie de pouvoir m'inscrire dans une pensée du théâtre qui se verrait comme lieu d'une guérison. En Angleterre, j'ai le sentiment que le théâtre est le lieu où précisément on fait en sorte que les deux bords de la plaie restent écartés. J'ai vraiment le sentiment, et c'est propre du coup à la nation britannique, et c'est là que c'est intéressant de faire un tour topique du théâtre, j'ai vraiment le sentiment qu'en Angleterre, le théâtre c'est le lieu, pour je paraphrase un peu Edward Bond, le théâtre est le lieu de la blessure, hein, c'est le lieu où les bords restent écartés et où on fait tout pour que ça se referme pas trop vite et surtout pour que ça se referme pas mal. Donc c'est l'endroit où on va creuser la plaie et où on va essayer de mettre en avant des analyses plus que des situations, des analyses de situations, dit encore Edward Bond. Donc c'est un lieu où, à la faveur d'un retour de l'émotion, ce que je vais essayer de montrer brièvement, mais à la faveur d'un retour de l'émotion, on met en scène non pas une étude distancée ou distanciée de la situation politique, mais précisément une étude qui parlerait aux entrailles. Tu parlais tout à l'heure d'Artaud et de théâtre viscéral, tu disais interne, mais c'est du viscéral, c'est ça. Je crois qu'on est là-dedans. Dans le paysage anglais, c'est ça qui se passe. Alors, Le format dont Brigitte m'a parlé m'a amené à penser cette intervention rapide en forme de peut-être de tour d'horizon avant de faire émerger une ou deux voix. Alors tour d'horizon tendrait à montrer que, il me semble, la tendance qui s'annonce dans le théâtre contemporain britannique est une tendance qui voit émerger un théâtre de la voix, un théâtre du vocal, qui du coup s'inscrit en faux contre un théâtre du visuel, un théâtre de l'opsis, hein, un théâtre du spectaculaire, qui est le genre de théâtre qui a dominé la scène à partir, disons, de, on va dire dans les 40 dernières années globalement, on va dire entre les années 60 et les années 90, hein, juste le théâtre d'après-guerre construit un théâtre de visualité, un théâtre de visualité frontale. Et ce que je voudrais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est la manière dont on s'oriente, je crois, à partir des années 90 vers un théâtre qui est davantage un théâtre spectralisé, un théâtre où le corps s'essentialise et où ne demeure plus qu'à l'état vocal sur la scène. Et c'est à la faveur de ce théâtre vocal que s'inscrivent peut-être les dramaturgies les plus intéressantes aujourd'hui, dont j'aurai peut-être le temps de dire un mot, comme celle, par exemple, de Debbie Tucker Green ou encore de Dennis Kelly. Alors, Au commencement, il y a Bond, je l'ai déjà cité deux fois, donc il y a Edward Bond et une pièce en 1965 qui s'appelle Sauvé, où se passe quelque chose de scandaleux qui est la lapidation d'un bébé dans son berceau. Alors ça, c'est le début, et c'est le début d'un concept que Bond va élaborer et qu'il va appeler l'aggro effect, aggressivity effect. Autrement dit, une conceptualisation contemporaine du striking effect du théâtre élisabétain, par exemple. Hein, donc un ressort théâtral qui vise, par la brutalité de l'image qui vous est proposée, à vous faire prendre conscience d'une violence qui a lieu dans un ailleurs du théâtre. Et la scène, du coup, prend une valeur authentifiante. Elle accorde une portée ontologique, en quelque sorte, à cette violence. Alors, au début, il y a donc Bond et cette création des aggro-effects. Les aggro-effects qu'il va élaborer, c'est un concept qu'il va élaborer. Vous voyez bien que Aggro Effect s'est fondé sur, c'est une espèce de paraphrase de l'alienation effect, donc l'effet D brechtien, l'effet de distanciation brechtien, qu'on appelle en anglais alienation effect. Donc ici on a un autre A effect, c'est plus le alienation effect, mais le Aggro Effect. Donc au début, il y a ça et c'est Bond qui l'élabore, mais bien sûr, l'agro-effect va de loin dépasser les frontières du texte bondien. Ça va radicalement envahir la scène contemporaine, et ça va être porté à une sorte de point d'acmé, à une sorte de climax, si vous voulez, dans ce qui s'est appelé le In Your Face Theater, c'est-à-dire ce qu'Alex Sears, un critique contemporain, a appelé le In Your Face Theater, c'est-à-dire le théâtre en pleine gueule, si vous voulez. Donc, on est dans les années 90, et dans les années 90, avec des pièces comme Anéanti de Sarah Kane ou Shopping and Fucking, rien que le titre, de Mark Ravenhill, on est dans un théâtre qui va exacerber ce théâtre de la violence frontale, un théâtre où on donne à voir, alors où on donne à voir, si on devait faire un petit bréviaire raisonné des agro-effects, il y en a de plusieurs sortes. On donne à voir du sexuel jovial, de l'affaire fornication, de la fornication joyeuse, comme chez Steven Berkoff ou Howard Barker, mais on donne aussi à voir une cruauté grotesque, comme dans les premières pièces de Barker. Je pense en particulier à ce moment truculent où, dans ce tableau d'une exécution, la peintre Galactia, cette peintre fortement inspirée d'Artemisia Gentileschi, cette peintre de la Renaissance italienne, donc cette peintre s'inspire d'un modèle extraordinaire, puisqu'il a vécu la bataille de Lépante et il est ressorti vivant. Seulement, il a une flèche dans la tête et il a des entrailles, il a un trou dans le ventre, et on peut voir les mouvements de son intestin. Voilà, c'est ça. Et ce modèle dit, voilà, le tarif, c'est $7, mais interdit de toucher. J'ai aussi une plaie géante, une plaie béante qui permet d'observer les mouvements de l'intestin, et j'ai la main ouverte jusqu'au poignet. Et si ça peut vous intéresser, je propose $2 pour l'intestin, et pour la main, c'est moi qui vous l'offre. C'est un miracle que je sois encore en vie. Je suis la preuve vivante de la solidarité entre les organes et de la résistance de l'État chrétien. Bon, voilà. Donc, vous voyez, l'agro-effect peut prendre tout à fait un tour grotesque, et à ce moment-là, la mort, l'horreur se grave dans le rire. Mais c'est aussi des scènes extrêmement violentes où on voit l'inceste, le cannibalisme, le sadisme, des mutilations. Il y a une scène fameuse dans une pièce de Barker qui s'appelle The Bite of the Night, la morsure de la nuit, qui s'appelle l'émondage d'Hélène. Alors la belle Hélène, belle fut un temps, est complètement émondée, on lui coupe les bras, la langue et tout ce qui reste. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que les années 80-90 voient se radicaliser cet effet choc qui est en fait une espèce de point de rencontre entre prise de conscience brechtienne, donc analyse, et viscéralité artaudienne, hein, c'est un peu ça l'agro-effect. Donc tout ça, ça se développe de manière incroyable dans l'agro-effect, ça se multiplie, et on peut dire que le In Your Face, donc le théâtre en pleine gueule, qui se développe dans les années 90 autour de ces dramaturges phares que sont Sarah Kane et Mark Ravenhill, Shopping and Fucking, cet agro-effect devient non plus un moment particulier qui dans la pièce vient vous réveiller, mais ça devient un régime de croisière. Il y en a partout. C'est-à-dire que toutes les deux minutes, il se passe une scène hyper violente qui vous agresse et qui vous fait vous sentir soit, toujours mal à l'aise, mais soit avoir envie de vomir, puke. Puke, go ahead, puke. Hein. Allez-y, gerbez. Voilà ce que vous disent, c'est Peter Barnes, donc un autre dramaturge. Il vous dit, allez-y, vous avez envie de puke? Go ahead, hein, c'est fait pour ça. Donc, soit vous êtes là avec un sentiment de nausée épouvantable, soit vous rigolez. Mais globalement, ça ne peut pas vous laisser indifférent. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on passe de cette scène hyper violente à la violence hyper frontale à une scène où la violence va s'essentialiser et même se spectraliser au point de ne plus être que dans la voix. Alors, le modèle, enfin, ou en tout cas la carrière qu'on peut suivre, la carrière, c'est pas un bon mot, mais l'œuvre qu'on peut suivre dans sa linéarité pour se rendre compte de la manière dont on passe de la frontalité à la spectralité, c'est peut-être celle de Sarah Kane, que tu connais bien, sur laquelle tu as beaucoup écrit. Chez Sarah Kane, on commence avec des pièces qui posent le corps. Dans Blasted, qui veut dire, enfin, qui a été traduit par anéanti, mais qui veut dire souffler, hein, une explosion, c'est le souffle d'une explosion. Ce qui se passe, la première réplique de cette pièce, c'est « J'ai chié dans des endroits mieux que ça ». Donc le corps est effectivement là, c'est le corps malade, c'est le corps d'un homme d'une cinquantaine d'années qui est atteint, ou même peut-être bien une bonne cinquantaine d'années, qui est atteint d'un cancer et qui est déjà en voie son corps est déjà en voie de décomposition. Donc le corps est là, il fait face à une jeune fille anorexique qui bégaye, le corps est là dans tous ses états. D'une agressivité absolument inouïe. C'est dans cette pièce qu'il y a non seulement une scène dénucléaire, enfin, je vous passe les viols et autres choses épouvantables, mais c'est dans cette pièce qu'il y a cette réécriture de la scène de l'énucléation de King Lear, out vile jelly, hein, allez faites sortir la gelée, cette scène où les yeux de ce personnage sont non seulement énucléés mais croqués. Donc voilà, on est là-dedans. Deuxième pièce de Sarah Kane, ça c'est Blasted, anéanti. Deuxième pièce de Sarah Kane, Phaedra's Love, l'amour de Phèdre. Le corps encore, le corps, première scène, Hippolyte, une espèce d'Hippolyte grunge, donc c'est une réécriture de Phèdre. Hippolyte, un personnage grunge, se masturbe entre deux hamburgers et se masturbe dans des chaussettes sales. Voilà, donc là encore, le corps est hyper présent. Cleansed. Avec Cleansed, on atteint une espèce de summum de la corporéité dans ce qu'elle a d'agressif frontalement, puisque ce qui se met en place dans cette pièce, c'est, qui est d'ailleurs une réécriture de Twelfth Night, La Nuit des Rois de Shakespeare, via Dommage que soit une putain, c'est une histoire entre un frère et une sœur, une histoire d'un... vous l'avez remis dans le bon ordre, une histoire entre le frère et la sœur, une histoire d'inceste, qui va finir par une phalloplastie et une mammectomie. Autrement dit, la sœur perd le frère. Là encore, une histoire d'absence, et je crois que ce que vous avez dit sur le théâtre comme lieu de l'absence, c'est extrêmement vrai. Le théâtre est toujours le lieu du mort, le lieu de la voix des morts, le lieu où on récupère l'absence. Donc, on se retrouve là avec une sœur qui va devenir son frère, et qui va devenir son frère par des moyens extrêmement explicites et médicaux, cliniques, donc la phalloplastie, la mammectomie. Donc là encore, on atteint un sommet de l'agressivité frontale. Et puis alors, mais la problématique du repli sur le même, puisque cette sœur devient le frère, autrement dit devient le même, cette problématique de l'inceste qui a à voir avec s'aimer soi-même finalement, cette problématique du repli sur soi commence à s'annoncer et annonce les deux derniers textes de Kane. Ça, c'est facile de parler de l'œuvre de Kane puisque malheureusement elle est terminée, donc on voit d'où elle part et où elle va. Les deux derniers textes de Kane qui sont Crave, Manque, qui est un texte pour quatre voix. Alors le personnage qui était extrêmement présent, qui était nommé dans les premières pièces, est surnommé puisque Hippolyte, Dieu sait qu'il porte une épaisseur culturelle, Phèdre, Dieu sait qu'elle porte une épaisseur culturelle. Donc de ces personnages surnommés, on arrive à un texte pour quatre voix qui ne sont plus nommées, qui portent les voix, qui portent des lettres comme nom de personnage. Donc c'est A, B, C, M. Voilà, une espèce d'alphabet curieux dont elle donne l'explication, mais une explication qui n'a pas grand intérêt d'ailleurs, mais elle donne l'explication de ces quatre lettres. Donc A, B, C, M. Donc on a comme ça un passage du corps frontal à un texte pour quatre voix, des voix qui apparaissent derrière des personnages qui ont disparu puisque ce sont des lettres et qu'on ne sait même pas s'ils sont féminins, masculins, vieux, jeunes, etc. On le sait au hasard du texte en essayant de remembrer des bribes d'histoire qui pourraient rester dans le texte, mais des voix qui néanmoins ne cessent de parler du corps. C'est-à-dire que ces quatre voix sont envahis par un lexique qui parle du corps. Je hais mon corps, je hais mes parties génitales, je ne me supporte pas. C'est ça que disent ces voix. Donc, des voix, mais paradoxalement, qui parlent le corps. Et puis, dans le dernier texte de Kane, qui s'appelle 448 Psychose, les voix qui s'appelaient ABCM ne sont plus nommées du tout et font place à des tirets. Des tirets dans le texte, donc on va encore plus vers, on avance encore plus vers cette spectralisation dont je vous parlais, des tirets et parfois plus de tirets du tout, si bien qu'on ne sait même pas si la parole qu'on lit dans le texte est une parole qui est prise. Hein, on ne sait même pas si la parole est finalement vocalisée et si elle a vocation à l'être, si elle a vocation au sens propre à être vocalisée ou si elle a vocation à rester sur la page. just a word on the page and there is the drama, juste un mot sur la page et voilà le drame. Donc c'est bien ça, peut-être que le drame du théâtre, c'est précisément de rester sur la page, peut-être que le drame commence à naître au moment où on pose le mot sur la page. Donc vous voyez qu'il y a un mouvement comme ça d'essentialisation et de décorporéisation du théâtre qui s'opère dans cette œuvre qui, à mon sens, montre bien l'évolution tout entière du théâtre contemporain anglais à l'heure actuelle. J'ai quand même le sentiment que ça n'est pas seulement Kane qui évolue dans ce sens-là, des gens comme Mark Ravenhill qui ont écrit Shopping and Fucking et qui progressivement, donc des pièces extrêmement frontales, hein, à l'agression extrêmement frontale, évoluent aussi vers des sortes de dramaturgie où on se raconte. Des sortes de dramaturgie où on ne fait que se raconter. En fait, des sortes de dramaturgie pratiquement racinienne, si vous voulez, où il ne se passe rien que du verbe. Hein, le faire se vide, le dire se remplit, dit Roland Barthes sur Racine. Donc, une espèce de dramaturgie curieusement très moderne, de manière très moderne, mais racinienne, où on va essentialiser le corps et le faire tenir tout entier dans la voix. Alors ça atteint peut-être un comble avec la dramaturgie d'un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Martin Crimp et dont vous avez peut-être pu voir des œuvres représentées ici en France puisqu'il est maintenant assez connu et assez souvent joué. Et je crois que ce processus de spectralisation atteint là encore un point d'orgue avec une pièce de Martin Crimp qui s'appelle « Atteinte à sa vie ». Atteinte à sa vie, qui est une pièce construite, faite de 17 scénarios pour le théâtre, 17 scénarios où Crimp, et c'est là ce que vous disiez sur l'absence m'intéresse beaucoup, 17 scénarios pour le théâtre qui vont s'efforcer de reconstruire la vie d'un personnage qui n'apparaît jamais. Donc le personnage en question s'appelle Anne, on en entend toujours parler, elle est remembrée, hein, au sens de remember me, elle est remembrée par tous les personnages qui en parlent, mais elle, en tant que personnage, demeure l'absente de tout bouquet, elle n'apparaît jamais, elle est toujours exclue de la scène. Donc on a une espèce de... Vous voyez, Crimp est quelqu'un qui a beaucoup lu Loulipo, qui a beaucoup lu Georges Perec, qui a beaucoup lu Tardieu. Donc on a une espèce de remake de La disparition de Perec, ce roman écrit sans la lettre E, sauf que là, c'est une pièce écrite sans le personnage principal, si vous voulez. Donc, pas un lipogramme, mais un une pièce lipoprosopique, on va dire, une pièce sans visage, voilà, c'est ça. Et Perec, d'ailleurs, j'ai lu ça dans un numéro de Vertigo de notre ami Bosseno, Perec avait l'intention de faire une version filmée, je ne sais pas si vous savez ça, une version filmée de La disparition, et il s'était dit comment faire, ce serait idiot de faire un film sans la lettre E, ça ne veut absolument rien dire, donc comment faire, on pourrait faire un film où tous les personnages seraient filmés de dos, où on ne verrait jamais un visage. Ce que fait Martin Crimp dans Atteinte à sa vie, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il construit une pièce qui remembre un personnage qui n'apparaît jamais, autrement dit, il construit l'absence, il donne une plénitude de négatif photographique à l'absence. Hein, c'est un peu ça qui se passe. Alors, voilà pour cette évolution, ça va, j'ai 2-3 minutes. Voilà pour cette évolution générale du théâtre contemporain. Et il me semble que ce qui se passe à l'heure actuelle sur la scène londonienne essentiellement, c'est quelque chose qui va dans ce sens-là. Et je voudrais citer deux noms qui me semblent importants. Donc le nom de Debbie Tucker Green, qui s'écrit sans majuscule, curieusement. Donc Debbie Tucker Green, qui est une auteure... d'origine jamaïcaine et qui écrit des pièces qui sans cesse brassent des sujets de société difficiles, comme par exemple une bavure policière, c'est cette pièce qui s'appelle Random, au hasard, qui raconte la mort de son frère. Enfin, c'est une pièce qui va s'intéresser, là encore, à la mort d'un être cher, la mort d'un frère à l'occasion d'une bavure policière. Il part faire ce qu'il a à faire dans la journée, puis il ne revient pas. Et cette pièce, au lieu de montrer le fait divers, va se construire de manière verticale. Vous regardez à quoi ressemble le texte. Elle se construit de manière verticale, c'est-à-dire de manière versifiée. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais se construit de manière versifiée, c'est-à-dire que le vers, dans sa verticalité et dans son rythme, prend en charge l'absence. On pourrait faire un travail de prosodie qui mettrait en évidence, je crois, et je n'ai pas le temps de le faire là, mais qui mettrait en évidence la manière dont la syncope, dont le rythme en creux, si vous voulez, la syncope prend en charge l'absence. Et je crois que ce que fait Debbie Tucker Green, c'est que précisément, elle travaille la prosodie et elle travaille la matière même de la langue pour essayer d'y graver l'absence, encore plus quand déconstruisant l'intrigue, le personnage, etc. Elle va graver l'absence au cœur même de la langue et elle va travailler le soupir, la syncope, le blanc de la langue, un peu de la manière dont Sarah Kane, dans 448 Psychose, travaillait déjà le blanc du texte. Je vous montre ici les dernières pages. Est-ce que vous voyez, ça sert à quelque chose, là, si je vois ? Oui. Voilà les deux dernières pages de 448 Psychose, où elle dit « Regardez-moi disparaître, regardez-moi disparaître ». Le texte est non seulement travaillé dans sa verticalité, puisque là encore, on est dans une écriture versifiée, mais il est progressivement phagocyté par le blanc de la page. Le blanc de la page qui signe l'absence, bien sûr, mais une page blanche, c'est pas seulement une page pleine de rien, c'est aussi une page pleine de blanc. Donc, pleine d'insignes qu'est le blanc. Hein, donc voilà, comment travailler cette matière verbale pour aller y inscrire l'absence à l'intérieur d'un art théâtral qui est tout un art de présence, précisément. C'est ça le grand paradoxe, me semble-t-il, de la scène contemporaine anglaise, qui va s'efforcer d'inscrire la douleur et donc l'absence, le deuil, au cœur d'un art de la présence, puisque le théâtre, contrairement au cinéma, donne les corps et non l'ombre du corps, hein, donne non pas l'ombre qu'on a sur l'écran, mais donne la présence du corps, le corps qu'on sent postillonner, le corps qui, au premier rang, reçoit non seulement le postillon, mais l'odeur du corps de l'acteur, etc. Donc il y a une rencontre charnelle. À l'intérieur de cette rencontre charnelle, ce que font les dramaturges contemporains, c'est qu'ils s'efforcent de graver des espaces de l'absence. Voilà. Le deuxième nom dont je voudrais au moins citer est celui de Dennis Kelly. Dennis Kelly, qui me semble un des types les plus passionnants de la scène contemporaine, d'abord parce qu'il a commencé à écrire lui aussi des textes comme ça, qui travaillent la matière de la langue pour y inscrire la banqueroute, la faillite, l'absence, etc., mais aussi parce que c'est un artiste protéen incroyable. Un des derniers grands mouvements que je voudrais très vite évoquer de la scène contemporaine, c'est le développement du verbatim, du théâtre verbatim, c'est-à-dire ce théâtre qui est fait non pas de pièces qui sont inventées par les dramaturges, mais de collages de ce que les gens ont pu dire. Donc, collage, par exemple, de ce qu'ont dit les hommes politiques à l'occasion, je pense à une pièce qui s'appelle « Stuff Happened », donc collage de ce qu'ont pu dire les hommes politiques au moment de l'entrée en guerre de l'Angleterre aux côtés des États-Unis en Irak, ou collage de ce qu'ont dit les passagers dans les trains au moment où l'Angleterre a privatisé le chemin de fer. Donc le théâtre verbatim, c'est 60% de mots entendus ailleurs et au maximum 40% de bridging material, c'est-à-dire de matériel qui fait le lien entre ces différents collages. Ce théâtre verbatim, qui revendique d'être le théâtre politique le plus novateur en Angleterre actuellement, puisque c'est une espèce de lieu de parole, comme la presse ne sait plus l'être, si vous voulez. Ce théâtre verbatim, Dennis Kelly le parodie dans une pièce extraordinaire qui s'appelle « Occupe-toi du bébé », qui est une parodie de théâtre verbatim, mais dont on ne sait pas que c'est une parodie de théâtre verbatim au début. Donc on voit cette jeune femme qui a soi-disant tué son enfant et qui vient raconter à la caméra l'horrible histoire de cet infanticide. Vous avez peut-être vu ça, c'était au Théâtre de la Colline il y a quelques mois. Donc elle raconte l'horrible histoire de son infanticide devant des caméras, donc on est véritablement dans une structure verbatim, mais rien ne nous dit que c'est pas vrai. Et au fur et à mesure, on se dit, tiens, c'est quand même bizarre, c'est quand même bizarre, tout se construit, tout est quand même très très bien huilé, et puis on va découvrir la supercherie en cours de route, on découvre qu'on a cru à cette parole qu'elle nous livrait, donc cette parole là encore où elle ne montre rien, elle n'est pas en train de tuer son bébé devant nous, mais elle raconte donc la violence, donc encore une parole vocale, elle raconte rien, et on se rend compte que en fait c'est une fabrication de théâtre verbatim. Donc ça me paraît être un des auteurs les plus les plus rapidement capables de s'approprier les codes en cours d'élaboration à l'heure actuelle et de les subvertir. Voilà pourquoi je crois qu'il faut retenir le nom de Dennis Kelly, qui est je crois, un des dramaturges phares. C'est quelqu'un d'assez jeune, il y a une quarantaine d'années, dont il faudra suivre l'œuvre à l'avenir. Donc voilà, pour conclure, ce mouvement qui nous amène d'un théâtre de l'opsis, donc du spectaculaire, de la visualité, à une prépondérance du vocal, et donc ce mouvement qui est quand même extrêmement paradoxal dans un théâtre qui est un art de la présence.
Merci.